France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Je ne me lasse pas de ce merde de Sandrine Kiberlin. Alors, bien sûr, Gwenaëlle Boulay, pour votre chronique, ce thème du couple vous a fortement inspiré.
Voilà, voilà. C'est ça le mot. Inspiré. Non, disons plutôt que tout comme en fac d'histoire, j'avais fortement prié pour ne pas tomber en partiel sur Aran, Morue et Baleine, les Néerlandais à la conquête des mers du XVIIe siècle. Et bien, depuis que j'ai commencé cette chronique parentale, j'avoue que j'allume régulièrement un cierge dans les toilettes du hall de Radio France pour ne pas tomber sur le thème du couple et de la sexualité.
Pourtant, on est en 2022, ce n'est plus un tabou depuis bien longtemps, Gwenaëlle.
Ah, ça c'est vous qui le dites, Ali. Hein. Parce que bon, moi, parler des premières purées, du stress de Parcoursup, la crise des devoirs, comment surmonter la perte du doudou devant plus d'un millier de perdants, un million de personnes.
Ah oui, quand même. Ah,
ça va, je peux y arriver encore. Mais alors, comme ça, à quelques jours de la Saint-Valentin, gloser sur les secrets du couple qui dure, là, ça frise plutôt l'exercice du salto arrière sur poutre, vous voyez. Mais bon, entre nous, c'est un peu pareil pour tout le monde. Hein. Alors ça, pour poster des photos bisous devant soleil couchant sur Insta l'été, ou envoyer des cartes de vœux façon Ricoré en janvier, là, il y a du monde. Mais alors, dès qu'il faut aborder le vif du sujet, un petit pouf, il n'y a plus personne. Pas question d'étaler les plaisirs, les doutes, les hontes et les frustrations de nos intimités au grand jour.
Bon, vous avez quand même mené votre petite enquête.
Oui, parce qu'il se trouve que j'ai ma carte de presse. Alors j'ai en effet mené ma petite enquête sur le sujet, une enquête assez phénoménale, hein, basée sur 4 copines et 3 copains. Donc on peut dire que c'est une enquête assez statistiquement représentative.
Alors qu'est-ce qu'on y apprend concernant les couples de parents?
Bon alors, information numéro 1. Aucune femme ne dit avoir été informée au préalable que sa libido se trouvait dans son placenta. Donc si elles avaient su, elles l'auraient gardée au moment de l'accouchement. Mangée, utilisée en tisane, replantée au pied d'un arbre, bref, mais elles en auraient gardé un petit bout. Information numéro 2. Pour 100% des intéressés, il n'y a pas à dire le choix d'un porte-bébé, d'un horaire de cours de judo, des nuits incomplètes, les révisions des tables de multiplication, les discussions sur le reflux ou le ramassage du vomi 3 fois dans une nuit, pardon, ont plutôt tendance à réduire l'activité sexuelle dans un couple.
Ah bon,
ouais. Ça vous étonne, hein ? Elle est bien mon enquête. Hein ? Alors, information numéro 3. Si pour 100% des hommes, le mot sieste évoque moment très attendu pour partager un petit moment sexuel avec son partenaire, il évoque pour 100% des femmes un moment rêvé de repos qui permet de récupérer, synonyme le plus proche, dormir. Et donc, information numéro 4 hein, de cette grande enquête, à la question « Vous sentez-vous épanoui dans votre couple après 10, 20, 30, 40 ans de vie commune ?» 80% ont répondu beaucoup mieux depuis l'arrivée de Netflix. Donc 20% autres ont cité OSS. OSS 117, ça marche aussi, je crois.
OCS, pardon. OCS. Tout ça n'est pas très glamour ni encourageant, Gwenaëlle.
Mais si, Ali, bien mais sûr. Non. C'est juste qu'il y a un petit travail d'ajustement à faire au fur et à mesure des années. Et qu'au départ, quand on est jeune, beau et fougueux, on n'a pas envie de se dire que tout ce capital d'amour et de désir changera peut-être un jour de forme, tel un barbapapa ou une barbamama en mutation, quoi. Sauf qu'avec le temps, l'arrivée des enfants, puis alors plus tard le départ des enfants, les mutations intérieures de chacun aussi, les aspirations, les angoisses des uns et des autres, eh bien oui, faire vivre son couple demande un travail, une recherche, une attention, on en a parlé. L'instinct laisse la place à la quête. Et c'est peut-être ça qui est beau. Continuer de chercher à faire plaisir à l'autre sans se perdre soi. On dit parfois que former un couple, c'est n'être qu'un, mais lequel? Au contraire, moi je pense que faire vivre son couple, au-delà d'images qu'on a envie d'en donner, c'est réussir à faire exister chacun tel qu'il advient à différents moments de sa vie. Accepter les changements, s'adapter, faire des choix, faire souvent preuve de pas mal d'humour, prendre soin, être là. Et quand le doute nous assaille, essayer de ne jamais oublier dans la nuit ce qu'on a un jour perçu dans la lumière. Alors, contrairement aux vies virtuelles étalées sur Instagram, tout cela demande parfois courage, patience et humilité. Autant de vertus qui ne font pas la une des journaux, mais qui, jour après jour, permettent de faire grandir nos couples.
Réaction de Julien Bisson.
Oui, mais puisqu'on parle de parents et d'enfants, moi je suis frappé aussi dans cette idée du couple parfait sur les injonctions qu'on met sur nos propres enfants. Mmh. Je veux dire par là, sur des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, et dès qu'ils ont un petit garçon qui s'entend bien avec une petite fille, il y a l'idée, mais vous allez vous marier plus tard, vous allez...
C'est pas
et c'est vrai qu'il y a cette injonction qu'on leur donne dès le plus jeune âge, à l'idée qu'ils vont être des couples parfaits, et c'est peut-être réfléchir à cette façon qu'on a de leur parler.
Sur la chronique de Gwenaëlle, Camille Rocher.
Ah bah c'est sûr que de toute façon il y a quand même un tsunami quand les enfants arrivent et le nombre de personnes qui disent mais pourquoi on nous a pas prévenus et c'est vrai hein, on parle toujours d'être parents, c'est merveilleux de tout ça, mais en fait rien que la grossesse déjà est un tsunami pour beaucoup de couples parce que la grossesse est idéalisée et plein de femmes sont super malades, super mal, super crevées et voilà, et donc dans le couple après il y a quand même quelque chose qui s'installe avec lequel on doit négocier, et ça le nombre de négociations qu'on doit faire en couple, ça fait partie, je pense, des clés de la communication.
Cécilia Como.
Oui, je trouve votre échantillon, Gwenaëlle, extrêmement représentatif. Oui, alors une des grandes difficultés des parents, c'est le temps disponible. C'est vrai que évidemment, quand il reste une minute dans la journée d'une femme, elle les veut pour elle, rien que pour elle. Foutez-moi la paix, elle passe son temps à donner aux autres, aux enfants, au boulot, quand elle travaille. Et c'est vrai que si on vient encore la chercher, comme ça arrive certains soirs, pour dire « tu n'aimerais pas faire un petit câlin », elle se dit « ah non, là c'est terminé, la boutique est fermée, je peux plus ». Donc c'est le temps disponible qui manque cruellement. Et ceci dit, je me rends compte que toutes les personnes qui étaient informées avant, sont des gens qui finalement s'en tirent pas trop mal. C'est-à-dire, ils se disent, mais j'ai entendu autour de moi, j'ai vu, je savais qu'il fallait être super vigilant.
La chronique Ma vie de parent à réécouter, à podcaster sur l'appli France Inter et l'appli Radio France.